Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un dossier du magazine marocain Imago Tomoto. Le sujet, les femmes au volant au Maroc. Bon, à première vue, ça peut sembler un peu léger, presque un marronnier, non. Mais en lisant ce dossier, on a vite compris que la question, c'est pas vraiment de savoir qui conduit le mieux. L'enjeu, c'est plutôt de voir comment un objet aussi banal qu'une voiture peut en fait servir de révélateur à des changements sociaux très profonds. On va donc essayer de voir ce que la route nous raconte.
C'est exactement ça. Il faut vraiment voir la route comme une sorte de théâtre.
Un théâtre, oui.
Ce n'est jamais juste un ruban d'asphalte. C'est une scène où se rejouent en permanence les codes, les tensions, les aspirations d'une société. Et ce qui est passionnant avec les sources qu'on a, c'est qu'elles nous permettent de confronter un folklore bien ancré, presque sympathique à force d'être répété, à une réalité qui, elle, a complètement changé.
Parlons-en de ce folklore, parce que le magazine ne l'esquive pas du tout.
Ah non !
On y retrouve ces fameuses phrases qu'on a tous entendues un jour, le classique « femme au volant ».
Mort au tournant, bien sûr.
Évidemment, mais il y a des variantes plus imagées. J'ai noté celle-ci. Les femmes ne font pas d'accidents, mais elles les causent.
C'est assez parlant.
Ou encore, ma préférée, il ne leur suffit pas de conduire les hommes, il faut qu'elles conduisent aussi des voitures. On en sourit, mais est-ce que ces clichés sont encore si présents aujourd'hui? On a l'impression que c'est une blague un peu datée quand même.
Mais c'est toute la question. On peut en sourire, mais leur persistance a dit quelque chose. Le dossier met le doigt sur un point essentiel. Le problème n'a jamais été la compétence technique. Il est symbolique.
Ah oui ?
Pendant des décennies, la voiture et l'espace public en général ont été considérés comme un territoire masculin. L'image utilisée, c'est celle du volant comme prolongement de la virilité. Et dans cette vision du monde, une femme qui prend le volant n'est pas juste une conductrice de plus. Elle commet une sorte de transgression. Elle pénètre un espace qui, au fond, ne lui était pas destiné.
Donc si je comprends bien, le simple fait de sa présence est perçu comme une anomalie sociale, pour reprendre les termes du magazine.
C'est ça.
Et cette perception, j'imagine, a des conséquences très concrètes sur la route.
Des conséquences directes. Ça crée un double standard permanent.
C'est-à-dire ?
Une femme qui réussit une manœuvre compliquée, on va dire qu'elle est prudente. Presque. Comme si c'était par chance. Un homme qui fait la même chose, ou même qui prend un risque, on le qualifiera d'audacieux, de pilote.
D'accord.
Et cette différence de jugement, ça installe une pression invisible. Pour beaucoup de femmes, ça peut générer un doute, une sorte d'hypervigilance. Et à l'inverse, chez certains hommes, ce sentiment que la route leur appartient peut encourager une confiance excessive, voire une prise de risque.
C'est fascinant parce que cette perception est en décalage total avec la vie des professionnels.
Complètement.
Ce dont le métier est justement d'évaluer le risque. Le magazine a interrogé un courtier en assurance et sa réponse est sans appel. Il préfère de loin assurer les femmes.
Et ce n'est pas le seul. Un moniteur d'auto-école abonde dans le même sens. Il décrit les femmes comme des élèves plus appliquées, plus diligentes et plus courtoises au volant.
Donc on a d'un côté un cliché de café du commerce.
Tenace, oui.
Et de l'autre, la réalité froide et pragmatique de ceux qui gèrent les contrats d'assurance et les leçons de conduite. La réalité du terrain contredit frontalement le mythe.
Totalement.
Bon, on a d'un côté ce folklore et de l'autre les pros qui disent l'inverse. J'imagine que le magazine a essayé de trancher ce débat avec des chiffres concrets, non? Qu'est-ce que les statistiques nous disent vraiment?
Et c'est là que le mythe s'effondre. Quand on trouve des données objectives, elles racontent une histoire complètement différente. Toutes les études disponibles, même si elles sont parfois un peu parcellaires, convergent sur un point. Les femmes ont tendance à respecter davantage le code de la route.
Et à adopter moins de comportements à risque, donc.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'on a un exemple précis de ça? Un chiffre qui illustre bien cette différence?
Oui, il y en a un très simple mais très révélateur. Le port de la ceinture de sécurité.
D'accord.
Une étude citée montre que 62% des passagères à l'avant la bouclent systématiquement. Pour les hommes, ce chiffre tombe à 56,8%.
Ce n'est pas une différence colossale, mais...
Non, mais elle est significative. Elle montre une conscience du risque, une culture de la sécurité qui est intégrée un peu différemment. La ceinture, ce n'est pas une option, c'est un réflexe. Et ce réflexe semble un peu plus ancré chez les femmes.
Ce qui met en lumière un paradoxe assez incroyable, finalement. Les femmes sont la cible des moqueries, mais les comportements les plus dangereux, les grands excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool, l'agressivité pure...
Reste statistiquement un phénomène très majoritairement masculin.
Oui. Et le magazine insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une question de biologie, c'est une construction culturelle.
Absolument. Mais attention à ne pas tomber dans une opposition trop simpliste.
D'accord.
Le dossier a l'honnêteté de nuancer ce tableau. Il rappelle une ancienne étude du Comité national de prévention des accidents de la circulation, qui date de 2017.
Et que disait-elle ?
Elle montrait une indiscipline assez généralisée et, pour tout dire, alarmante. À l'époque, plus de 6 conducteurs sur 10, hommes et femmes confondus, avouaient ignorer un stop.
6 sur 10.
Oui.
Ce qui veut dire que le problème de la sécurité routière au Maroc est bien plus large qu'une simple question de genre.
Exactement. Le problème est collectif. Il y a une culture de la route à améliorer pour tout le monde. Réduire le débat à une simple opposition homme-femme, c'est un peu passer à côté de l'enjeu principal, qui est celui d'une responsabilité partagée de l'espace public.
Tout ça, c'est passionnant, mais on parle beaucoup de comment les femmes conduisent. Est-ce que le dossier s'intéresse à une question peut-être plus fondamentale ? Pourquoi est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à prendre le volant ? Qu'est-ce que ça change pour elles au quotidien ?
Et là, on touche au cœur du sujet. C'est vraiment le point de bascule de l'analyse. La véritable révolution, elle n'est pas sur la route. Elle est dans la vie de tous les jours. Pourquoi elles conduisent ? Bah, pour travailler, pour être autonomes.
Pour emmener les enfants à l'école.
Pour emmener les enfants à l'école sans dépendre de quelqu'un. Pour créer une entreprise. En fait, pour exister pleinement dans l'espace économique et social. Le magazine utilise une très belle formule pour ça. La voiture est devenue un outil d'émancipation silencieuse.
Émancipation silencieuse, j'aime beaucoup l'idée. C'est quelque chose qui se passe sans grand discours, mais qui transforme la société en profondeur.
Et l'impact est d'abord économique. Plus de mobilité pour les femmes, c'est mathématiquement plus de participation au marché du travail, plus de flexibilité, plus de création de richesses. Et le dossier donne des exemples forts et qui sortent vraiment des clichés. On y parle d'une chauffeuse de taxi à Kenitra, d'une navigatrice de rallye.
Et même d'une conductrice de poids lourd.
Voilà.
Attendez, une conductrice de poids lourd. Arrêtons-nous là-dessus un instant. Ce n'est pas juste un métier, ça. C'est la conquête d'un des derniers bastions de l'imaginaire masculin sur la route, non ? Qu'est-ce que ça change concrètement dans la perception des autres chauffeurs sur une aire d'autoroute la nuit ?
C'est un bouleversement culturel. Au début, il y a la surprise, la méfiance peut-être, mais très vite, la réalité du métier s'impose. La compétence, la fiabilité, le professionnalisme, ça n'a pas de genre. Ces pionnières, elles ne font pas que conduire un camion, elles déconstruisent un mythe à chaque kilomètre. Elles redessinent la carte mentale de ce qui est possible ou pas possible pour une femme. Et ça, c'est extrêmement puissant.
Et ce phénomène ne se limite pas à des cas individuels, aussi emblématiques soient-ils. Le dossier met en lumière un mouvement de fond.
Oui.
La féminisation du transport public.
Oui, et c'est très visible dans les grandes agglomérations comme Rabat, Fès ou Tanger. Voir des femmes au volant de bus ou de tramway, c'est devenu normal. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple opération de communication ou une politique de quotas.
C'est une question de besoin, en fait.
C'est une réponse très pragmatique des opérateurs de transport. Ils font face à des difficultés de recrutement et ils ont besoin de compétences. Ils sont allés les chercher là où elles se trouvaient, tout simplement.
Et quelles sont les conséquences de cette arrivée massive ? Pour les femmes elles-mêmes, j'imagine que c'est l'accès à un emploi stable, à une sécurité financière.
C'est ça, et c'est énorme. C'est l'autonomie, la reconnaissance sociale. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est l'impact sur le système lui-même.
C'est-à-dire ?
L'arrivée des femmes a obligé les entreprises à repenser beaucoup de choses. L'ergonomie des postes de conduite, la sécurité dans les dépôts, la gestion des plannings pour mieux concilier vie pro et vie de famille.
Ah oui, d'accord.
Ce sont des améliorations qui, au final, profitent à absolument tous les conducteurs, hommes compris. La diversité a rendu le système meilleur pour tout le monde.
Donc cette nouvelle réalité des femmes sur la route finit par transformer non seulement le paysage social, mais aussi l'industrie elle-même. J'imagine que ça a aussi un impact sur la façon dont on achète une voiture.
C'est l'autre grande transformation. Le rapport à l'objet automobile change complètement. Il faut se souvenir de la publicité automobile d'il y a 20 ou 30 ans.
Oui, la voiture puissante, l'homme au volant.
Et une femme séduisante à côté. Ce cliché a volé en éclats. La réalité décrite par les concessionnaires interrogés est tout autre. Les femmes sont des acheteuses extrêmement rationnelles.
C'est-à-dire ? Quels sont leurs critères prioritaires ? On pourrait penser à la couleur, au design ?
Bah, pas du tout. C'est même le contraire. Les critères qui reviennent systématiquement sont la sécurité, la fiabilité, le coût d'entretien et la qualité du service après-vente.
Ah oui, très concret.
On est très loin du prestige de la marque ou de la puissance du moteur. Elles posent souvent plus de questions techniques que les hommes et, de plus en plus, ce sont elles qui arbitrent la décision finale d'achat pour le foyer. Leur approche est pragmatique. Est-ce que cette voiture va me simplifier la vie, en toute sécurité et sans me coûter une fortune à l'usage? C'est ça, la question.
C'est une approche très terre-à-terre. Et cette rationalité, elle a obligé les marques à revoir leur discours.
Complètement. Le marketing a dû s'adapter. On est passé d'un discours sur la performance et le statut social à des arguments sur la praticité, le confort, la modularité, les aides à la conduite.
On ne vend plus un symbole de puissance, en somme.
On ne vend plus un marqueur de genre ou un symbole de puissance. On vend un outil, un service. Le dossier le dit très bien. Le véhicule redevient un simple moyen de transport au service d'un usage.
C'est presque un retour aux sources, finalement.
On peut voir ça comme ça. Sous l'influence de cette consommation plus pragmatique, l'automobile se débarrasse d'une partie de sa charge symbolique, qui est parfois un peu écrasante. Elle redevient ce qu'elle n'aurait peut-être jamais dû cesser d'être, un outil de liberté, de mobilité et d'autonomie, pour toutes et pour tous.
Donc si on essaie de prendre un peu d'auteur, ce que ce dossier nous apprend, c'est que derrière un sujet en apparence anodin, se cache en fait un miroir de la société marocaine.
Exactement.
On y voit ses clichés, ses résistances, mais surtout une dynamique de changement incroyablement puissante.
Et c'est pour ça que le véritable enjeu, ce n'est pas de savoir qui des hommes ou des femmes sont les meilleurs conducteurs. C'est une question stérile.
Absolument.
Le vrai sujet, c'est d'apprendre à mieux partager cet espace public.
Une responsabilité partagée en somme.
Une responsabilité partagée. Il s'agit de déconstruire les comportements dangereux, peu importe leur origine, et de promouvoir une culture du respect. Apprendre à mieux partager la route, c'est une métaphore de la manière dont on apprend à mieux partager le monde.
Pour finir, il y a une phrase dans la conclusion du dossier qui m'a marqué. Elle dit que le progrès social se construit souvent dans le silence du quotidien.
C'est une belle formule.
C'est exactement ce qui se passe sur les routes. Alors, la question que j'aimerais laisser à notre auditoire, c'est celle-ci. Au-delà de la conduite, dans quels autres domaines de notre vie de tous les jours peut-on observer ce même décalage? Ce décalage entre des stéréotypes qui ont la vie dure dans les conversations et une réalité qui, elle, silencieusement et sans faire de bruit, a déjà complètement changé.